Chapitre 22. 10 peintres pour un sujet, la crucifixion. Dans ce chapitre, l'exaltation du Dieu fait homme, 10 techniques pour un même dépassement de soi. La crucifixion est l'une des étapes de la Passion, c'est-à-dire des événements prenant place depuis la scène, dernier repas pris par Jésus de Nazareth avec ses apôtres, son arrestation, les jugements, l'un du Sanhédrin, tribunal religieux juif, l'autre de Ponce Pilate, gouverneur romain, les tortures infligées jusqu'à la crucifixion et la mort. L'ensemble est relaté dans les évangiles synoptiques qui présentent une version semblable des événements pour l'essentiel. Lors de la crucifixion, Jésus est condamné au supplice romain du crucifiement, le terme de crucifixion désignant plus particulièrement un épisode de la Passion. Il porte sur le dos sa croix jusqu'au mont du Golgotha, ou lieu du crâne, où elle est dressée. Il est alors crucifié, vêtu du seul périsonium, une bande d'étoffe qui lui ceint les reins. Un légionnaire lui donne un coup de lance pour vérifier s'il est mort ou vif. Comme le sang coule, il est encore en vie. L'agonie aurait duré plusieurs heures, les ultimes moments prenant place après 3 heures de ténèbres, probablement une éclipse. Juste avant de mourir, le Christ s'écrie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Delaron l'accompagne dans son supplice. L'un reconnaît la divinité du Christ et est voué au paradis, l'autre se moque de lui et finit en enfer. L'intensité dramatique de la scène, sa valeur hautement symbolique car elle précède la résurrection, le fait qu'un dieu soit mis à mort font de la crucifixion l'une des images préférées des peintres, de Giotto, au début du XIVe siècle, à Salvador Dali, en 1954. Giotto di Bondone. Plus connu sous le seul nom de Giotto, Giotto di Bondone naît probablement en 1266 à Colle di Vespignano, dans la vallée de Mugello, à quelques kilomètres de Florence. Bondone est le nom de son père, Giotto un diminutif du prénom de son grand-père, Angelo. Encore enfant, il entre à l'école de peinture du maître Cimabue, à Florence, puis le suit à Rome et à Assise. L'une des premières œuvres de Giotto est pour la paroisse de Sainte-Marie Nouvelle à Florence, un gigantesque crucifix de près de 5 mètres de haut vers 1290. Il épouse Monna Cinta di Lapo del Pella. Le couple aura plusieurs fils et filles. La manière de Giotto, qui se dégage des influences byzantines, lui vaut plusieurs commandes. Un cycle sur la vie de Saint François dans la basilique supérieure d'Assise, la chapelle Scroveni à Padoue. En 1300, à l'occasion du jubilé proclamé par le pape Boniface VIII, Giotto réalise une fresque commémorative pour la loge des bénédictions à Saint-Jean de Latran. Ses revenus lui permettent d'acquérir une maison à Florence, puis de devenir un riche propriétaire foncier. Il continue à peindre, à Assise, à Rome. À Florence même, il peint 4 chapelles dans l'église franciscaine de Santa Croce, dont ne subsistent que celles des Bardi et des Peruzzi. Il séjourne ensuite à Naples entre 1329 et 1333, appelé par Robert d'Anjou, mais de son œuvre au Castel Nuovo ne demeurent que des fragments comme les hommes illustres de la chapelle palatine, attribués d'ailleurs aujourd'hui plutôt à ses élèves. Giotto travaille encore à Bologne, à Milan, puis retourne à Florence où il meurt le 8 janvier 1337. Sa dépouille est inhumée à Santa Croce. Le crucifix de Sainte-Marie Nouvelle réalisé vers 1290 à Florence est l'une des plus anciennes œuvres de Giotto. Peint a tempera, sur bois, selon la technique qui précède la peinture à l'huile, les pigments sont liés à l'œuf, entier ou seulement le jaune, le blanc et l'ensemble mêlés d'huile de lin. Haut de près de 5 mètres, il est prévu pour être exposé sur un jubé détruit en 1500 au milieu de l'église dominicaine. À l'extrémité de la croix, la Vierge et Saint Jean contemplent le Christ. Encore proche de la peinture byzantine, l'œuvre s'en détache déjà toutefois, tout comme de l'influence de Cimabue, par l'humanité du Christ qui a le corps affaissé, la tête pendante et un flot de sang qui se coagule sourd du flanc percé. Il s'agit du Christ homme expirant. Les fonds noirs et or font ressortir la chair déjà cadavérique du Christ, dont le visage émacié, douloureux, contraste avec la sérénité de la Vierge et de Saint Jean, tout comme la calme position des mains s'oppose aux paumes plantées de clous, aux doigts gagnés par la rigor mortis, la rigidité cadavérique. Ce Christ ascétique sert de modèle à toute une génération de peintres à la charnière entre le style gothique et celui de la Renaissance. Mantegna. Peintre et graveur italien, Andrea Mantegna est né dans une famille pauvre à Isola di Carturo vers 1431 sur le territoire de la République de Venise. Il devient l'élève, avant d'être adopté par lui, de Francesco Squarcione, maître à Padoue, avec lequel il entretient des relations conflictuelles, l'accusant notamment d'exploiter son talent. Il travaille à Padoue, à l'église des ermites de Saint-Augustin à Saint-Antoine, où peint des vies de Saint-Jacques, Saint-Christophe et réalise des retables. Mais il quitte Padoue pour y fuir l'hostilité de Squarcione au profit de Mantoue, de Rome et de Padoue. À Mantoue, Louis III de Gonzague fait de Mantegna son peintre de cour. Il y décore la chambre des époux au palais ducal. Après 20 années passées à Mantoue, il poursuit sa carrière à Rome, à la demande du pape Innocent VIII, où il orne le Vatican de fresques aujourd'hui perdues. Mais Padoue lui manque. Il y retourne pour y peindre les 9 pièces de son Jules César et surtout l'un de ses chefs-d'œuvre, la Lamentation sur le Christ mort. Ses dernières années sont placées sous la protection d'Isabelle d'Este, la nouvelle marquise de Mantoue. Elle lui commande des œuvres à sujet mythologique. Il meurt dans cette ville le 13 septembre 1506. Aujourd'hui, au Louvre, la crucifixion fait partie du retable, c'est-à-dire du décor peint de la table du maître-autel de l'église San Zeno de Vérone. L'œuvre est une commande faite à Mantegna par l'abbé Gregorio Correr. Les différentes pièces sont réalisées à Padoue, puis mises en place à Vérone. Le panneau central représente une Vierge à l'enfant, flanquée de divers saints, dont Zénon de part et d'autre. La prédelle, partie inférieure d'un retable, illustre au centre la crucifixion, à gauche le Christ au jardin des Oliviers, à droite la résurrection. Ces œuvres, emportées par les troupes napoléoniennes en 1797, sont aujourd'hui remplacées à Vérone par des copies. Sur fond de colline et d'une ville se dressent les croix du Christ et des deux larrons. Au pied des croix, les femmes en pleurs, un groupe de soldats romains jouant au dé la tunique du Christ, à gauche Saint Jean et à droite un soldat à cheval. Toute la force, l'intensité dramatique de la scène se joue entre l'affliction des femmes et l'indifférence des joueurs, tout comme l'opposition entre la déploration muette du saint et le regard curieux du cavalier. Mantegna invite à des regards croisés, religieux et profanes, qui assistent pourtant à la même scène mais sans lui prêter une signification identique. Outre un art consommé de la perspective, le jeune Mantegna maîtrise déjà ici l'expressivité des personnages et les références à l'Antiquité. Statufiés par la souffrance, les corps du Christ et des deux larrons, on voit le Christ cloué sur la croix et les deux larrons attachés, évoquent la tension douloureuse de chaque muscle lors de l'interminable agonie. Au premier plan, Saint Longin brandit la lance dont il a percé le flanc du Christ. Le crâne au pied de la croix évoque le lieu du supplice, le Golgotha, le lieu du crâne, celui d'Adam, selon la légende. Au milieu de soldats indifférents, se noue le drame de la mort de Dieu fait homme. Matthias Grunewald. Identifié comme Matthias Neithardt, dit Matthias d'Aschaffenbourg, où il travaille de longues années au service de l'archevêque Uriel von Gemmingen en qualité d'architecte, Matthias Grunewald est un bien mystérieux personnage. Sa date de naissance est tout aussi inconnue, évoluant selon les auteurs entre les années 1460 et 1480. Le lieu l'est également, probablement dans la région de Würzburg en Basse-Franconie. Le nom ou le surnom sous lequel il est connu, Grunewald ou Verte Forêt, lui est donné au XVIIe siècle par Joachim von Sandrart dans un ouvrage recensant les peintres et architectes allemands. La première partie de sa carrière se déroule à Aschaffenbourg, ville située à la frontière entre la Bavière et la Hesse, où il exerce ses talents en architecture pour le château du lieu. Il séjourne à Mayence et à Francfort. C'est au tournant des années 1509-1510 que les Antonins d'Isenheim, en Alsace, lui commandent son chef-d'œuvre, le retable destiné au maître-autel, réalisé entre 1512 et 1515. Il peint ensuite plusieurs tableaux, dont la Vierge de Stupach, Saint Érasme et Saint Maurice, entre 1517 et 1523. En 1526, il quitte la cour de l'archevêque de Mayence, dont dépendait Aschaffenbourg. Ce prince de l'Église, électeur de l'empereur, chargé de son sacre, éloigne peut-être un Grunewald tenté par la réforme naissante. Le peintre s'établit à Francfort, puis à Halle, en Allemagne orientale. Il y met en œuvre une dernière fois l'une de ses aptitudes, qui est celle d'ingénieur hydraulicien, en réalisant une machine hydraulique. Il meurt à Halle le 31 août 1528, lors d'une épidémie de peste. Conservée au musée d'Unterlinden de Colmar, la crucifixion du retable d'Isenheim réalisée entre 1512 et 1515 est le chef-d'œuvre de Matthias Grünwald. Réalisé pour les Antonins d'Isenheim, entièrement peint par Grünwald selon la technique de l'huile sur bois, il s'agit d'un modèle de retable à volets. Chaque volet articulé permet d'exposer une scène différente. Quand les deux volets mobiles du centre sont clos, le spectateur voit la crucifixion ornée de part et d'autre d'un volet fixe représentant saint Augustin et saint Sébastien. Sur l'après d'elle situé au-dessous, il voit une déploration avant la mise au tombeau. En revanche, une fois ouvert, les volets offrent au regard en lieu et place de la crucifixion et des deux saints trois scènes, une annonciation à gauche, une incarnation avec la Vierge à l'enfant au centre et une résurrection à droite. À lui seul, le retable d'Isenheim constitue donc un acte de foi complet reposant sur les épisodes essentiels de la vie de Jésus et la promesse pour tous de la résurrection. La crucifixion de Matthias Grünwald diffère des deux exemples précédents par un réalisme poussé jusqu'au vérisme. Le corps du Christ mort, affaissé sur la croix et livide, ensanglanté, lardé des épines de la flagellation, avec le périsonium lacéré. Les yeux clos, la bouche ouverte, les doigts tordus en un ultime spasme de douleur, frappent par la crudité des affres ultimes du supplicié. Une pancarte tenue par une chaîne porte la mention INRI. Soit Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Humiliante raillerie ajoutée à l'infamie du crucifiement dans l'esprit des Romains. Le paysage est nu, le fond sombre dominé par les ténèbres qui, selon les évangiles, accompagnent la mort du Christ. Deux scènes se répartissent d'un côté et de l'autre de la croix placée au centre du tableau. À gauche, l'apôtre Jean reçoit dans ses bras Marie qui, livide, défaille. Agenouillé au pied de la croix, le corps tordu de désespoir comme celui de Marie, Marie-Madeleine éplorée, échevelée, entrecroise les doigts jusqu'à les faire blanchir dans une supplication violente et désespérée. À droite, un saint Jean-Baptiste, debout, brandit d'une main une Bible. De l'autre, désigne de l'index le Christ, disant « Ilum oportet crescere, me autem minui », c'est-à-dire « il faut qu'il croisse et que je diminue ». Reconnaissant la fin de son rôle prophétique avec l'achèvement de l'incarnation. À ses pieds, l'agneau de Dieu, autre figure du Christ, égorgé, laisse son sang couler dans un calice, tenant une petite croix dans le repli de sa patte avant. L'ensemble dégage une double impression, fondée à la fois sur l'insoutenable réalité du supplice et de la mort d'un homme, et l'espérance de la résurrection de Dieu fait homme. La partie sculptée de l'ouvrage est due à Nicolas Zimmerlin, dit Nicolas de Haguenau, qui l'aurait exécuté aux alentours de 1500. Le Tintoret. Peintre italien, Jacopo Comine, dit le Tintoret, est né à Venise en 1512. La profession de son père lui vaut le surnom de Tintoretto, souvent traduit par le petit teinturier, une activité qu'il n'exerce pas. Aux alentours de 1540, il est déjà peintre reconnu à Venise, s'adonne aux sujets mythologiques et religieux. Il vit de son art. Il épouse en 1550 Faustine de Vescovi, fille d'un banquier. Ils auront six enfants, dont deux, Domenico et Marietta, démontrent un talent assez sûr pour peindre avec lui dans son atelier. Le Tintoret œuvre pour la Sérénissime, exécute des commandes pour la République de Venise, la confraternité de la cathédrale Saint-Marc ou pour Hercule de Gonzague, évêque de Mantoue. Mais son œuvre maîtresse résulte du concours ouvert en 1563 par la confrérie de San Rocco. Là où les autres peintres produisent des esquisses, le Tintoret non seulement fournit l'œuvre achevée, mais en fait don par piété. Une collaboration de plus de 20 ans s'ouvre à lui. Il a pour tâche de peindre murs, plafonds, panneaux amovibles pour la Scuola di San Rocco, au total une cinquantaine de compositions gigantesques, dont la Crucifixion. Son travail soutenu pour San Rocco ne l'empêche pas d'œuvrer au Palais des Doges, avec le Paradis, la dernière scène ou la déposition de l'église San Giorgio Maggiore. Parmi ses œuvres majeures, citons Saint Georges et le Dragon, Suzanne au Bain, le Christ devant Pilate, la Conversion de Saint Paul, le Massacre des Innocents, le miracle de saint Marc, la création des animaux. Il meurt en pleine gloire et en plein travail le 31 mai 1594 à Venise, où il est inhumé dans son église paroissiale de la Madone dell'Orto. La crucifixion de la Scuola di San Rocco de Venise, réalisée en 1565, fait partie des plus de 50 compositions réalisées par le Tintoret pour les bâtiments de la confrérie. Gigantesque œuvre de 5 mètres de haut et 12 mètres de large, elle est peinte sur le mur du fond de la grande salle du premier étage. Elle met en scène les débuts du supplice du Christ, cloué sur la croix que des charpentiers viennent de dresser, affaibli mais toujours en vie, auréolé d'une lumière qui accentue la coloration d'une chair demeurée vive, de muscles encore capables de se tendre pour reculer un peu la faim. Un homme trempe une éponge dans de l'eau vinaigrée fixée à un bâton afin d'humecter les lèvres du Christ. Des dizaines de curieux sont venus assister au spectacle, ou se livrent à leurs activités, mais leurs regards traduisent un intérêt tout relatif. La croix du premier larron à gauche est en train d'être dressée, cependant que sur la seconde à droite, encore à terre, les exécuteurs lient le second. Ces deux scènes semblent attirer l'attention des spectateurs au moins autant que la fin du Christ. Seul, un groupe pyramidal au pied de la croix placée au centre de la composition exprime le sentiment tragique. Ils assistent Marie effondrée de douleur. Contrairement aux œuvres précédentes, le choix du Tintoret se porte sur le commencement de l'exécution par crucifiement, quand l'insupportable sentiment que l'inéluctable est en cours se fait jour pour les proches du Christ, pauvre petit groupe entassé au pied de la croix, entouré d'une multitude remuante, affairée, venue en curieuse assister à une mise à mort. Placé au sommet de la composition, le Christ, déjà au-dessus des hommes, n'a pas toutefois totalement quitté leur monde pour rejoindre le ciel. Le Greco. Domenikos Theotokopoulos est célèbre sous le nom d'El Greco, le Greco en français, acquis à la suite de son séjour à Tolède. Il naît en 1541 sur l'île de Crète, alors possession de la République de Venise. Il fréquente quelques mois vers 1570 l'atelier du Titien à Venise même, après une formation initiale picturale en Crète. Une recommandation lui permet de rentrer au service du cardinal Alexandre Farnese, mécène au service duquel il demeure 2 ans. Le séjour à Rome se prolonge jusqu'en 1576. Mais l'essentiel de sa vie et de son œuvre prend place à Tolède, où les commandes l'attirent comme le Santo Domingo el Antiguo et l'Espolio de la cathédrale. Le succès lui vaut d'exécuter des œuvres pour le souverain Philippe II, un martyr de Saint-Maurice au palais de l'Escurial en 1580 qui déçoit les attentes du prince. Ce qui n'empêche nullement des réalisations grandioses, à l'instar de l'enterrement du comte d'Orgaz en 1586 pour l'église Saint-Thomé de Tolède, ainsi que les œuvres ornant le collège de Doña Maria d'Aragon à Madrid en 1596, ou la décoration de l'église d'Illescas en 1603 et 1605. Sa vie matérielle est surtout affective et moins bien connue. Il partage son existence avec l'amour de sa vie, Doña Jeromina de las Cuevas, dont il a un fils, Jorge Manuel, également peintre mais aussi architecte, sans apparemment l'épouser. Il est hébergé par le très noble mais très désargenté marquis de Villena, qui ne lui mesure pas l'espace, il y a plus de 20 pièces dans son palais, mais il ne peut le soutenir financièrement. Ces difficultés pécuniaires expliquent sans doute les procès nombreux entre le peintre et les acquéreurs de ses œuvres. Le Greco meurt le 7 avril 1614 à Tolède. Il est enterré à Santo Domingo el Antiguo. Son fils fait transférer ses restes au couvent San Torquato, où ils ont été dispersés à une date inconnue. Exposé à Madrid, la crucifixion du musée du Prado fait partie d'un retable exécuté par le Greco pour le collège Doña Maria d'Aragon. La prédelle représentait probablement une annonciation. Pour le maître-autel de l'édifice, l'artiste réalise également une Assomption de la Vierge et une Sainte Trinité. Si le Greco reprend de ses illustres prédécesseurs, Grunewald notamment, le thème de la crucifixion, les personnages de la Vierge Marie, de Marie-Madeleine et de Saint-Jean, il prolonge une version de crucifixion de Giotto en introduisant de part et d'autre de la croix des anges. Celui de gauche reçoit dans une paume de main ouverte le flot de sang issu de la blessure au flanc. Tous deux exaltent un Christ marmoréen, serein dans la mort, dont le corps blanc tranche avec les ténèbres alentour et les drapés de couleur des anges, de la Vierge et du Saint. Un dernier ange, muni d'une éponge, recueille au pied de la croix le sang divin. Loin de l'exaltation de la souffrance de l'homme, le Greco le donne à voir transfiguré, divin dans la certitude de sa résurrection prochaine. Le geste du troisième ange est redoublé par celui de Marie-Madeleine qui essuie elle aussi la croix un peu plus bas, recueillant humblement le reliquat du sang et des humeurs divines, partage parfait entre le divin et l'humain, pourtant confondu en la personne du Christ.